Permettez-moi d'interrompre cet épisode 60 secondes. J'ai un message important pour vous. Atteindre 10 000 euros de revenus mensuels stables et prédictibles, même si vous démarrez de zéro, cela vous semble impossible ? Bonne nouvelle ! Du 30 avril au 5 mai, nous organisons le plus grand événement en ligne francophone de l'année pour les entrepreneurs. Le challenge entrepreneurs.com. 100% gratuit, 5 jours intensifs pour propulser votre business. Chaque jour, vous aurez accès à des sessions live exclusives avec des experts de renom. Ce n'est pas juste un événement en ligne, c'est une chance de faire un vrai changement grâce à des conseils et des méthodes prouvées. C'est une opportunité d'échanger en live avec mon équipe et moi pour faire avancer votre projet. C'est la garantie d'évoluer et de progresser dans un environnement sain et profiter d'une communauté unique. Je vous invite maintenant à réserver votre place. Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, consultez notre site podcastledeclic.fr ou cliquez sur le lien dans notre bio Instagram. Merci pour votre confiance et maintenant, place à notre épisode du jour.
Les dominos, tu vois, qui s'écroulent les uns après les autres. Je perds tous mes encours, toutes mes assurances avec tous mes fournisseurs, prestataires, etc. Tous ces enseignements, je les ai pris violemment en pleine gueule. Ça a été tellement dur, ça a été tellement la honte pour moi. J'ai tellement été vexé qu'on m'y reprendra plus. La gestion financière, la rentabilité, c'est pas en option. J'arrête aujourd'hui de parler en chiffre d'affaires, je ne parle qu'en marge. C'est très bien pour les milestones, etc. Mais c'est pas, en tout cas, ce qui permet de réinvestir et de bien gagner sa vie.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Hugo.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
Bah écoute, impeccable. Je passe une bonne journée. Je rentre de 2 heures de paddle, gros match, 4-7 à 0, donc... Comme j'aime bien gagner, je suis plutôt en pleine forme.
Excellent, excellent. Quand tu viens à Dubaï, il faut absolument qu'on se fasse un paddle. Tiens, rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que je te présente, etc. Paddle, est-ce un sport pour networker ou pas ? Parce que moi, je trouve qu'ici, à Dubaï, c'est le sport pour networker.
Eh bien, écoute, de base, non. Parce que de base, c'est vraiment... je suis tombé amoureux de ce sport qui est hyper ludique, hyper... c'est hyper addictif, etc. Et maintenant, je me sers de plus en plus du paddle dans mes actions business. Tu vois, bon, on en parlera, je pense, après, mais tu vois, j'ai monté un club d'entrepreneurs à Bordeaux qui s'appelle le Poney Club. On est un peu plus de 200 membres. Et tu vois, j'organise des ligues, des tournois. Là, je suis en train d'organiser le premier off-site entrepreneur paddle, etc., où on va partir soit à 8, soit à 12 entrepreneurs à Malaga avec un coach et pour faire 4 jours de paddle non-stop. Donc, tu vois, de plus en plus, ça va l'être. Hein. Je pense que ça va être le nouveau squash ou même le nouveau golf, quoi.
Ouais, complètement, complètement. Bah écoute, c'est top, ça me fait super plaisir d'être ici avec toi. Ça fait maintenant quelques semaines que l'on prévoit cet épisode. On te voit vraiment partout sur LinkedIn. On t'a vu récemment aussi sur scène aux côtés de grands noms dans le cadre de The Game, un séminaire organisé par David. Et franchement, bravo pour ton parcours. Pour te situer, pour te présenter rapidement, tu es le CEO de La Chapelle. La Chapelle, c'est un startup studio dans lequel vous avez actuellement 4 projets et d'autres qui sont dans les tuyaux justement. Ce qui est intéressant aussi, on va en parler, c'est que voilà, vous êtes des cofondateurs de ces différents projets. Vous êtes 5 associés. Le but, c'est de cofonder des boîtes avec des CEO ou des CTO externes de votre équipe. Vous concentrez sur la création de l'équipe, sur aller chercher les premiers clients, sur travailler à améliorer le produit et créer une offre irrésistible, sur gérer toute la partie aussi admin finance et puis aussi apporter votre expertise de façon à ce que les gens puissent vraiment aller avancer, aller scaler. Au-delà de tout ça, au-delà de toutes ces casquettes que je t'ai déjà évoquées, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ?
Bah écoute, yes, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Hugo Benz et puis bah je te remercie encore pour l'invitation parce que je suis très content de passer après toutes les personnes que t'as pu avoir dans le podcast. J'ai 35 ans, j'habite à Bordeaux, je suis parisien de naissance même si j'ai vécu grande partie de mon adolescence même jusqu'au bac à la campagne dans la Marne en Champagne-Ardenne. Donc, je suis de base un campagnard qui est venu vivre à Bordeaux pour les études. Et je suis tombé amoureux de Bordeaux, je suis tombé amoureux d'une Bordelaise. Je me suis marié à Bordeaux, j'ai eu un enfant à Bordeaux, une petite Juliette, dont c'était l'anniversaire il y a 4 jours, qui a 7 ans. Et du coup, bah, accessoirement, j'ai commencé également à entreprendre pendant mes études à Bordeaux. Et c'est ce qui fait que je n'ai jamais quitté cette ville. Et j'ai la particularité, depuis que j'entreprends, donc depuis 2010, donc ça va bientôt faire 13 ans, ça fera 13 ans cet été, d'avoir monté pas mal de projets. Et j'ai mis du temps à, du coup, à même moi me mettre une étiquette de, voilà, de quel type d'entrepreneur j'étais. Et j'ai enfin réussi, il y a un peu plus d'un an, en fait, à comprendre que moi, j'étais un véritable entrepreneur starter. Ce que j'adorais, c'était les débuts de projet et l'aspect vraiment go-to-market, zero to one, création de l'offre et montage du premier draft d'équipe, tu vois, jusqu'à 7, 8, 10 personnes max. C'est ma zone de génie, c'est là-dedans que je me sens bon et que je suis en confort. Et c'est pour ça que du coup, le montage du Startup Studio La Chapelle, en fait, est apparu comme une évidence il y a à peu près un an. Puisqu'en fait, c'est la seule boîte possible dont l'objet social est de monter des boîtes et donc qui est du coup ma passion, ce que j'aime faire et ce que je pense que je sais faire. Et c'est ce qui fait que je me suis lancé il y a un an. Donc du coup, après avoir monté une dizaine de boîtes, principalement B2B, la plus connue d'entre elles, c'est Kimono. Hein. J'étais beaucoup sur la verticale du textile personnalisé, donc encore une fois dans le milieu du B2B. Et de cette expertise métier, j'avais monté plein de boîtes. Du coup, il y avait Kimono sur l'aspect start-up, PME, grand groupe, mais également Kermes sur les écoles, Capsule sur l'aspect grande distribution, GSS, GSA, etc. et d'autres. Et j'ai un peu tablé sur ce fameux track record qui est que j'en ai monté 6 d'entre elles jusqu'à plus d'un million d'euros dès la première année. Et j'ai vachement tablé là-dessus sur ma marque personnelle. Et c'est pour ça que la création du Startup Studio apparaissait un peu pour moi comme une évidence, quoi.
Ouais, complètement. Et c'est super intéressant. Et là, tu mets déjà en exergue un point, c'est le fait d'identifier sa zone d'excellence, sa zone de génie. La tienne, c'est justement de comprendre ce start des différentes structures. On va revenir sur pas mal de choses, mais tu as en partie justement répondu à l'une de mes premières questions. C'est, tu disais, tu as 35 ans aujourd'hui. Ça fait à peu près un an que tu as créé La Chapelle. Mais avant ça, est-ce que tu peux revenir sur le début de la carrière d'entrepreneur de Hugo jusqu'à cette prise de conscience de La Chapelle à tes 35 ans ? Parce que là, on pourrait se dire, waouh, ouais, c'est incroyable, 4 projets en un an, c'est en train d'exploser, c'est génial, le Poney Club, plus de 200 personnes, les différents projets, on va en parler tout à l'heure. Bref, il y a une vraie vision, même c'est beau ce que tu as fait avec tes associés, le fait que vous ayez racheté un château, vous avez aussi agencé ça, etc. On en a parlé lors de notre appel la dernière fois. C'est top, mais la réalité, c'est qu'il y a, voilà, j'imagine, plus de 10 ans d'expérience entrepreneuriale derrière qui fait que tout ça est rendu possible. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Ah ben, clairement, c'est un long processus, c'est beaucoup d'itérations, beaucoup de choses testées. En fait, déjà, je pense qu'il y a un côté de ma personnalité en fait, qui je pense aujourd'hui ma plus grande qualité, qui à un moment donné a pu être un défaut, parce je pense qu'on parlera également des échecs, parce que c'est important de pas seulement donner la big picture, de mettre le track record et de parler de seulement ce qui s'est bien passé. Mais en fait, j'ai un avantage, je pense, sur certaines personnes, c'est que j'ai peur de rien. Donc, quand j'ai une idée, je la creuse, et s'il y a quelque chose à faire, j'y vais. Je ne me pose pas 36 000 questions. Et en fait, je fais la même chose dans la deuxième étape, qui est l'aspect go-to-market, enfin création de l'offre, go-to-market et création de l'équipe. Je vais direct à l'essentiel et je vais vite parce qu'en fait, j'ai peur de rien. Et ça m'a certainement joué des tours quand j'étais plus jeune. Maintenant, même si 35 ans, j'aime à me dire que je fais encore partie des jeunes, mais je le suis un petit peu moins puisque ça fait maintenant 13 ans que je suis dans ce game-là. Mais du coup, voilà, pour répondre déjà à ta première question, une longue itération, beaucoup de choses tentées, donc beaucoup d'expériences glanées. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu, voilà, j'ai mis au point, on va dire, une méthode sur papier. Et c'est cette méthode que j'essaye de retranscrire sur les projets qu'on lance avec La Chapelle. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, le Startup Studio, si on vulgarise, c'est une boîte qui est organisée pour industrialiser la création d'entreprise. Tu vois, c'est un peu ça. Puisque en fait, une vraie entreprise, pour qu'elle marche et pour qu'on dise que c'est vraiment un succès, etc., on va pas se mentir, il faut déjà 4-5 ans minimum et on peut même faire un vrai bilan au bout de 10 ans. Donc moi, étant donné que je me dis je vais bosser dans ma vie, je sais pas, 40 ans, 50 ans, moi, tu vois, ce serait insupportable pour moi de me dire que dans ma vie, j'aurais que 4 ou 5 projets. Tu vois, c'est pas du tout la vision de la vie que je veux et je respecte amplement les gens, par exemple, qui sont la personne d'une boîte, voire deux dans toute leur vie. C'est les gens, voilà, qui ont une vision focus, qui ont une vision à très très long terme sur un projet. Et je respecte vraiment ça et j'ai même envié ces personnes à un moment donné. Mais moi, en fait, à un moment donné, j'ai dû me faire une raison. Je ne suis pas du tout comme ça. Tu vois, à un moment donné, j'avais honte de penser que plutôt qu'une boîte à 20 millions, bah moi, en fait, je suis le genre de mec qui préfère en avoir 10 à 2 millions. Tu vois, je le prenais presque un peu comme un manque d'ambition et ça m'énervait un peu d'être comme ça. Mais maintenant, je l'ai accepté. Je suis très content d'être comme ça. C'est même assez singulier parce que on n'est pas 36 à dire qu'on est, content d'amener des boîtes à seulement 2 millions et qu'après, on est content de redonner le bébé et de passer la main. Bah, moi, c'est mon cas.
Ouais. Ouais, c'est hyper important. Et justement, parle-nous un petit peu de cette méthode. C'est quoi la méthode La Chapelle ? Parce que finalement, quand tu dis le terme « industrialisé », moi, tout de suite, parce qu'à la base, tu vois, j'étais un cancre à l'école, rapidement, on m'a mis dans une usine. Du coup, je connais les lignes, on appelle ça comme ça, les lignes à l'usine d'industrie. Et il y a un truc qui est propre à l'industrialisation d'un process, c'est qu'il y a des patterns qui doivent être similaires. Donc, typiquement, tu ne peux pas mettre en place une méthodologie de création et de validation d'un business de 0 à 1 million, par exemple, qui va fonctionner pour tout type de business. C'est-à-dire que ta méthode, elle va peut-être fonctionner pour un business de service, pour un business de formation en ligne, ou pour un business d'e-commerce, ou pour un business de SaaS, ou pour un business type agence immobilière, je te dis n'importe quoi, mais pas pour tous ces business à la fois. Il y aura nécessairement des ajustements qui vont être, à mon sens en tout cas, nécessaires à un certain moment du processus. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette méthodologie pour celles et ceux qui nous écoutent ?
Ouais, clairement. Bah, moi, ma méthodologie, en effet, elle est quand même beaucoup plus basée sur des business B2B. Tu vois, regarde, moi-même qui commence à lancer, d'ailleurs avec La Chapelle, tu vois, des formations, des business qui sont plus B2C, tu vois, qui sont plus des business que toi tu mènes, par exemple. Ça, c'est des choses que je découvre et en effet, où on est sur une toute autre méthodologie et que du coup, là, je suis plus encore en mode apprentissage là-dessus. Mais sur l'aspect B2B, ça, c'est ce que je maîtrise. Et quand je dis industrialiser, c'est plus dans le sens où… Tu masterises des tâches, des actions, et en fait, tu les répètes. Et à un moment donné, on l'a dit un peu en intro, pour moi, en fait, il y a trois piliers dans une offre, enfin, dans la création d'une boîte. Il y a bien sûr l'offre, donc l'offre de service, l'offre de produit. Il y a la partie, bien sûr, go-to-market, donc là, vraiment la partie sales, aller chercher ses premiers bêta-testeurs, puis les premières dizaines de clients, les fidéliser, et du coup, continuer à avoir de la croissance, et du coup, de monter l'équipe de Rockstar qui va, du coup, encore une fois, gérer la boîte et gérer, en fait, chaque partie de la société. Donc, et encore que l'équipe, moi, je le mets un peu plus tard. Tu as des gens qui ont plus de moyens que moi, ils le mettent tout de suite. Moi, en général, comme je suis quand même plutôt bootstrap pour l'instant, on va dire que ça arrive un petit peu après. Mais pour rentrer un peu plus dans le détail de la méthode, bah, c'est déjà créer l'offre. Bien sûr, tu peux pas vendre si t'as pas une offre qui est quand même déjà digne de ce nom. Mais quand je dis digne de ce nom, elle a pas besoin d'être parfaite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une offre, il y en a qui disent ouais, si t'en as honte, c'est que c'est le bon moment pour la lancer. Moi, j'attends quand même d'avoir une offre quand même qui est quand même palpable et qui a quand même le mérite d'exister et qui est quand même vendable. Mais ça prend pas beaucoup de temps. Et pour, en fait, encore une fois, aller créer cette offre, eh ben, en fait, tu peux démarrer ton go-to-market pendant que tu es en train de créer l'offre. Pourquoi ? Parce que toi, bah, déjà, on va prendre un exemple, hein, je pense que ce sera plus parlant pour ton audience. Tu vois, par exemple, on va prendre la première boîte qu'on a lancée avec La Chapelle, qui s'appelle Chaser.io. Chaser, Chaser.io. Chez Chaser, on a vu une opportunité, c'est la création de vidéos UGC pour les DNVB principalement, donc pour leur réseau, donc TikTok, Insta, Facebook, etc. Et surtout quand même pour leur utilisation dans leurs ads. On a vu qu'il y avait une réelle opportunité là-dessus. Et on s'est tout de suite dit, voilà, nous, ça, c'est le produit qu'on veut aller vendre. Donc, on l'a ciblé. On a ciblé l'audience. On a dit qu'on allait se concentrer dans un premier temps sur les DNVB. Maintenant, l'offre, c'est quoi ? Parce que ça peut être plein de choses. Ça peut être des packs de 10 vidéos. Ça peut être, est-ce qu'on va tourner nous-mêmes ? Est-ce qu'on va faire appel à des créateurs externes ? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses comme ça. Nous, on s'est dit que, voilà, est-ce qu'on va faire une marketplace où c'est ouvert, on va faire des appels à projets sur tous les créateurs ? Nous, on a tout de suite recentré en disant, voilà, l'offre, elle va être claire, ça va être des vidéos UGC et on va se créer un pool d'une dizaine de créateurs pour commencer, même si on n'a pas tous les personas, tous les âges, tous les ciblages, etc. On prend 10 créateurs, on les forme très rapidement et tout de suite, on va se confronter au marché. Tu vois, créer l'offre, ça nous a pris une semaine. C'était pas parfait, mais c'était vendable. Et donc, du coup, on s'est tout de suite mis à go-to-market. Donc, pareil, go-to-market, qu'est-ce que c'est ? C'est aller chercher ses clients. Et moi, ma méthode, c'est que limite les 6 premiers mois, mais presque même la première année, mais on va dire surtout les 6 premiers mois, je suis un mec à l'ancienne. Je suis vraiment un mec du micro plutôt que du macro. C'est-à-dire que moi, je suis un mec du sales manuel, à la mano, personnalisé. Mais ce n'est pas parce que c'est manuel et que c'est personnalisé que tu ne peux pas faire de la quantité. À un moment donné, quand tu as un bon message, même si tu vas l'envoyer à la main, c'est très facile de l'envoyer à 100 personnes par jour. Donc 500 personnes par semaine. Donc ça fait 2000 personnes par mois. Et sachant qu'encore une fois, les 2000 personnes par mois, c'est pas, t'as pas scrappé des bases à tout va, il y en a 50% de merde ou quoi. C'est toi qui as choisi les 2000 personnes à qui tu vas t'adresser. Donc, c'est ultra ciblé. Et du coup, après, bien sûr, on pourrait rentrer encore plus dans le détail. Il faut que tu aies le bon message. Il faut que tu t'adresses du coup à la bonne personne. Donc, si je rentre un tout petit poil dans le détail là-dessus, moi, je fais ma première liste d'une centaine de prospects que je veux absolument avoir en client parce que moi, je suis persuadé que quand tu lances une offre, il faut tout de suite aller taper tes clients de rêve parce que c'est en les name-droppant qu'après, tu vas pouvoir aller faire de la croissance beaucoup plus rapidement. Et en plus, c'est des gens qui, du coup, vont certainement avoir le besoin et qui vont beaucoup plus t'aider à co-créer l'offre avec toi, en fait, à faire évoluer ton offre produit ou de service en même temps que tu es en train de leur vendre, sauf qu'en fait, toi, tu n'es pas en train de leur vendre, tu es en train de créer une relation avec eux et en co-créant l'offre avec eux, les mecs, sans s'en rendre compte, tu es en train de leur faire une vente puisqu'en fait, tu es en train de créer la relation avec eux et comme ils ont beaucoup échangé avec toi, ils vont comprendre que ça va leur te donner le temps de montrer que tu es expert, que tu as une bonne offre et du coup, ça va être beaucoup plus facile après pour faire un test avec eux, donc tu vas faire passer ça en mode bêta test, ça va être moins cher, tu vas surdélivrer et après voilà, une fois franchement très rapidement, c'est assez facile d'aller chercher les 5 premiers clients, ensuite tu commences à les name drop, tu vas aller en chercher une dizaine d'autres et après en fait normalement encore une fois, ces clients-là, ils vont recommander, ils vont commencer à te recommander, toi tu vas pouvoir du coup créer du contenu avec du coup cette histoire-là et encore une fois, tu dois passer 80% de ta semaine à faire ça, pas à faire ton site internet, monter les statuts, déposer ta marque à l'INPI, en tout cas, faire tous ces petits détails qui ne sont pas importants les 3 premiers mois, qui sont pour moi les plus importants.
Ouais. Désolé, j'ai fait un grand monologue. Complètement, je te rejoins et tu fais… Non, mais t'as totalement raison, t'as totalement raison, parce que finalement, tu mets en exergue les bases même de ce qui fait qu'un business se lance et qu'un business fonctionne, mais surtout qu'un business… génère ses premiers résultats et donc on a notre proof of concept, quoi. On a notre MVP qui est déployé, notre proof of concept qui est présent et ça te permet après de scaler, d'avancer. Il y a un point assez intéressant et on reviendra justement sur cette méthodologie parce que là, en gros, tu as partagé les bases qui permettent d'avoir les premiers milliers, voire dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais on parle quand même d'aller scale des business à 0 to 1, donc de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, avec quand même, j'imagine, une certaine marge, un certain bénéfice, et que c'est des business qui sont en autofinancement, je pense, à chaque fois. Du coup, il y a d'autres phases derrière, on va y revenir dans quelques instants. Mais un point sur lequel je voulais rebondir, c'est que vous avez 5 associés. Et c'est pas quelque chose d'anodin d'avoir 5 associés en plus, du coup, donc votre core team c'est 5 associés, mais en plus vous vous associez aussi à des personnes qui vont du coup être sur le terrain dans le quotidien des différents business que vous déployez, que vous lancez, donc c'est 5 associés au niveau de la chapelle si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux m'en dire plus justement à propos de ces 5 associés, qui sont-ils, que font-ils et comment vous répartissez le travail, parce que quand on est 5 quand même on a peut-être cette facilité entre guillemets des fois à être 2 sur le même truc, à se chevaucher, etc. Est-ce que vous avez réussi, si oui, comment, à être complémentaire plus qu'autre chose ? Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Ouais, non mais complètement. Bah, en fait, c'est ça. Hein. Sur la chapelle, en fait, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on est 5 associés. Donc du coup, que je vais présenter. Et on a seulement un salarié pour l'instant qui est Johan, qui est mon bras droit, mais qui deviendra également entrepreneur lui-même. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris. Et comme tu l'as dit, dès qu'on monte un projet, dans tous les cas, on va s'associer avec minimum un CEO ou un CEO plus un CTO. Et après, on va monter une équipe autour d'eux. Mais du coup, pour présenter mes 4 associés de la chapelle, déjà, pour revenir un peu à la genèse, ça démarre en fait d'un coup de foudre entrepreneurial et amical, parce qu'en fait ils font partie des tout premiers membres du Poney Club que j'avais créé, qui était de base, on va dire, plus on va dire une petite soupape de décompression que je voulais me créer avec un petit groupe d'entrepreneurs avec lesquels on irait dîner une fois par mois, on aurait un groupe WhatsApp commun pour s'entraider. De base, l'enjeu et la vision, ça allait pas plus loin que ça, parce que toi comme moi, tu sais que quand on est entrepreneur, je sais pas, moi, des fois, enfin, c'est hyper prétentieux, mais moi, tu sais, je me sens un peu, alors pas comme Harry Potter, mais comme, tu vois, comme un sorcier à Poudlard quand je suis au Poney Club. Et quand je suis pas à Poudlard, je me sens différent, tu vois, parce que du coup, moi, avec ma famille, avec mes amis, je parle jamais de ce que je fais parce que j'ai l'impression que les gens vont pas comprendre. Ou bien, si je parle, par exemple, des résultats et qui peuvent être des résultats positifs, etc., j'ai toujours peur de vexer ou de paraître pour un mec qui se la pète ou quoi qu'est-ce. Donc, du coup, je garde tout pour moi. Je me fais beaucoup de discussions avec moi-même, etc. Et en fait, c'est ce que le Poney Club m'a apporté, c'est une soupape où d'un coup, bah, tu parles business et t'en as pas honte, quoi. Donc ça, c'était la première chose. Et je suis tombé amoureux de Ben, Vic, Sam et Joe. Donc c'est vrai que je devais coller sur nom. Donc Benjamin et Victor, qui eux-mêmes, du coup, ont leur boîte qui s'appelle l'agence Ben & Vic. Et eux, ils sont spécialisés dans le scale des DNVB, donc principalement sur la partie ads, mais pas que. Et donc, du coup, avec un modèle agence, et les mecs, ils cartonnent, ils sont brillants. Et au début, j'étais pas comme un mentor avec eux, mais tu vois, c'est la première fois que je me disais, tiens, je commence à parler à des entrepreneurs plus jeunes à qui je peux faire profiter un peu de mon expérience, parce qu'ils démarraient et ils ont grossi tellement vite qu'ils se sont pris tous les problèmes en pleine tronche dès le départ. Et c'est le moment où on s'est rencontrés. Et du coup, moi, ça m'a fait plaisir et du bien de pouvoir apporter ça. Donc, Ben et Vic, eux, ils sont beaucoup sur la partie acquisition, automation, etc. Donc, ils arrivent plutôt dans une phase d'après, en fait, après les 3 premiers mois où on est vraiment comme tu l'avais dit, dans la création du MVP, proof of concept, aller chercher les premières dizaines de clients, etc. Donc, eux, ils arrivent, on va dire, plutôt opérationnellement sur la partie d'après. Tu as Joe, donc Jonathan Lalinec, qui lui est le CEO de Split, donc Split avec 3 i. Je ne sais pas si tu connais Split, mais c'est une plateforme qui, pour moi, est révolutionnaire.
Il est passé sur le podcast, ouais.
Ah, mais oui, mais en plus, il m'a dit. En plus, c'est lui
L'épisode n'est pas encore sorti, donc t'es pardonné.
Bah ouais, non, mais le pire, c'est qu'en plus, tu me l'avais dit et Joe m'en avait parlé. Bon, tu vois, moi, Joe, je trouve que c'est un génie et en plus, c'est le mec le plus adorable du monde. Alors lui, pareil, si tu devais donner l'illustration même du GIF First, tu pourrais coller sa tronche dans le dictionnaire. C'est un mec, pareil, qui est brillantissime, tu as dû t'en rendre compte, et qui est vraiment hyper simple, hyper humble, alors que le mec, ça fait 20 ans qu'il entreprend, il en a sa deuxième grosse success story, etc. Et Split, moi, je trouve que c'est une idée brillante. Donc, on va pas spoiler les gens, de toute façon, dans tous les cas, quand ils écouteront peut-être mon podcast, si c'est des fans de ton podcast, ils auront déjà écouté celle de Joe, parce qu'il passera sûrement avant. Et Joe, donc lui, c'est un vrai amoureux du produit. Donc lui, il m'apporte encore une fois, pareil, beaucoup de compétences que moi, je n'ai pas, parce que moi, je viens vraiment du pur B2B. Je ne suis pas un mec qui sait lancer des produits. Donc, quand je parle de produits, je parle vraiment de tech, de SaaS, de plateforme, etc. Et Joe, lui, il a vraiment ce côté, encore une fois, très product, très UX, très utilisateur friendly, etc. Et du coup, il nous aide beaucoup là-dessus. Et encore une fois, même si moi je suis le plus opérationnel des 5 sur la chapelle, j'aurais jamais réussi à le lancer sans eux, parce que tu vois, on se parle toutes les semaines, même voire tous les jours sur WhatsApp, etc. On s'entraide beaucoup, c'est un peu comme une effervescence, un peu de colonie de vacances où tu te sens vraiment pousser des ailes parce que tu as le côté collectif de la chose. Et moi, La Chapelle, c'était clair et net que je voulais la vivre de manière collective. Et le dernier, c'est Sam, Samuel Duc. Lui, c'est le CEO de l'agence Octolio. Donc lui, c'est un pro du no-code. Donc pareil, il est très côté product, mais plus côté technique. Et pareil, moi, c'est des compétences mais que je n'aimais pas du tout. Et donc, encore une fois, outre que c'est un entrepreneur exceptionnel et que c'est aujourd'hui l'un de mes meilleurs amis, pareil, Sam, pièce vraiment maîtresse de la Chapelle. Et donc, j'ai eu vachement de chance de tomber sur ces quatre-là et qu'ils acceptent de monter La Chapelle avec moi, quoi.
Ouais, et je rebondis du coup sur un sujet qui me vient du coup en prenant connaissance des différents membres, c'est que tous sont également entrepreneurs et ont justement leur boîte à côté qui tourne, alors que toi, si j'ai bien suivi, t'es vraiment CEO de La Chapelle, c'est ton activité full-time, outre bien sûr du coup le développement des différents projets qui font partie intégrante de La Chapelle, c'est bien ça ?
Alors moi, j'ai également ma boîte personnelle qui s'appelle Le Plongeoir et en fait où je suis un solopreneur qui du coup en fait a sa boîte et ses business dessus. On pourra peut-être en parler tout à l'heure un peu de. C'est vrai que ce côté un peu hybride que j'ai, tu vois, un peu mi Startup Nation, mi solopreneur. En fait, qui est ma boîte de rémunération en fait tout simplement parce que le business model d'une boîte comme La Chapelle, c'est un business model très long terme, et comme aujourd'hui on n'a pas encore levé, etc., et c'est pas prévu de le faire tout de suite, bien au contraire, du coup j'ai quand même toujours cette activité. Donc grosso modo, on a tous nos activités et on est tous alors plus ou moins part-time, hein. Moi je suis quand même beaucoup à 80% on va dire sur La Chapelle aujourd'hui dans mes semaines, mais c'est pour ça aussi que je voulais qu'on soit 5, parce que c'est pas notre activité principale, et parce que du coup il fallait que du coup le temps qui soit imparti à chacun sur La Chapelle soit hyper efficace et hyper impactant.
Ok, je vois. Ouais, effectivement, je viens de m'aventurer en même temps sur ton LinkedIn et quand tu cliques sur « Afficher les 29 expériences », je mets ça en exergue parce que c'est rare quand même, on voit Le Plongeoir, 0 salarié, 10 heures de travail par semaine, 1 million de CA annuel, simple. Donc ouais, effectivement, c'est simple.
Oh, quand tu le lis, je me dis, putain, je me la raconte là, il faut que je change ça, quoi.
non, c'est top. Tiens, d'ailleurs, Kimono, on pourra en reparler aussi. Tu mets aussi les résultats, j'aime bien ça, c'est transparent. 2017, 1 million. 2018, 3 millions. 2019, 5 millions. 2026, 2021, 10. C'est top. Aujourd'hui, tu es complètement sorti de Kimono ou comment ça se
complètement sorti, ouais. Complètement sorti de l'opérationnel, j'ai toujours mes parts, mais du coup, moi en fait, de base, je suis actionnaire minoritaire de Kimono. En fait, Kimono, c'est vraiment né de l'idée et de la vision de mon associé Olivier. Mais d'ailleurs, pour un prochain invité, Olivier, c'est un super client en podcast et du coup, encore une fois, avec très très différent de moi, mais moi, je l'admire beaucoup pour son côté vraiment visionnaire. Alors lui, du coup, il est tout le contraire de moi. Lui, il a une vision du coup très long terme de Kimono, tu vois. Kimono, ça fait déjà 6-7 ans qu'on l'a monté, 2016, ouais, du coup, oui, non, on l'a monté en 2017, pardon. Donc, ça a fait 6 ans là, en début d'année. Mais tu vois, lui, il a une vision, il sait que ça va encore durer minimum 4 ans. Il a une vision vraiment sur 10 ans. Et lui, c'est vraiment le visionnaire, c'est le manager, tu vois. Kimono, il y a une cinquantaine de salariés et il les manage, mais vraiment de manière hyper brillante, etc. Et moi, tu vois, c'est tout ce que je ne sais pas faire. Donc voilà, juste pour Kimono, c'est un énorme succès. Moi, aujourd'hui, je suis hyper fier et ravi d'avoir fait partie de cette aventure. Je sais ce que j'ai apporté, je n'ai pas à en rougir, etc. Mais 90% du succès de Kimono, c'est grâce à Olivier, grâce à sa vision et grâce à tout ce qu'il a mis en place. Et voilà. J'aime bien quand même le redire parce qu'il faut quand même raconter la vérité, quoi.
Ouais, complètement. Un autre sujet aussi, si on revient justement au Startup Studio La Chapelle, c'est quoi le deal que vous mettez en place en général avec les différents entrepreneurs même si vous mettez en exergue, vous n'êtes pas un incubateur, vous n'êtes pas un fonds d'investissement, mais en gros, voilà, vous travaillez directement avec eux, vous devenez associé avec eux, vous êtes aussi dans l'opérationnel. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent ici et qui se disent « Waouh, c'est génial, Le business model La Chapelle, c'est exactement l'outil, le levier, le partenaire, appelons ça comme on veut, l'associé dont j'ai besoin pour pouvoir déployer mon plein potentiel parce que je me sens seul, parce que je n'ai pas cette vision, mais je ressens que j'en ai la possibilité, j'ai déjà mon proof of concept potentiellement, etc. Ça me permet de créer deux questions. La première, c'est quel type d'entrepreneur vous recherchez à accompagner avec La Chapelle, avec ce startup studio que vous avez créé tous les cinq, mais aussi du coup c'est quoi le type de deal en général que vous proposez à ces individus?
Ok, mais moi pour répondre à la première partie de ta question, le type de deal il est simple, c'est que nous on sera toujours minoritaire, grosso modo on aura toujours entre 25 et 35% des parts pour laisser le ou les cofondateurs ultra majoritaires pour la suite de leur aventure, qui est, par exemple pour une éventuelle première levée de fonds en seed et surtout après une levée de fonds en série A. On sait que les fonds, ils ne sont pas non plus toujours ultra fans des startup studios et ils veulent absolument, et c'est normal, que les cofondateurs soient dérisqués à mort et soient hyper incentivés par leur nombre de parts. Donc nous, le but, ce n'est pas d'être trop gourmand là-dessus, mais du coup, souvent l'idée va venir de nous, toute la structure va venir de nous et comme je te disais, on va être ultra opérationnel. Tu vois, tu prends un business comme Chaser. Aujourd'hui, je ne sais plus exactement déjà combien de clients on a, mais 80%, c'est nous qui avons été les chercher. Donc, on fait vraiment le taf à ce niveau-là. Et donc, on prendra, comme je le disais, toujours entre 25 et 35% selon, on va dire, qui a amené l'idée, qui a amené le business. Tu vois, il peut y avoir plein de cas un petit peu différents, mais on sera toujours dans cet ordre d'idées. Et ensuite, quel type de CEO on va chercher? Ça, c'est toujours un peu, même si je vais y répondre, c'est toujours un peu difficile. Hein. En fait, c'est comme si je te demandais de quel type de fille tu vas tomber amoureux. Tu vois, il faut un peu ce je ne sais quoi qui va fonctionner, qui va matcher. Il va y avoir un human fit, un culture fit. Mais quand même, surtout, c'est que je vais sentir, il faut que je sente que le mec ou la nana que j'ai en face, il va pouvoir vraiment exécuter une vision, s'approprier l'idée, même si ce n'est pas la sienne, ça peut être la nôtre, qui va s'approprier que ça va être la sienne, l'équipe, ça va être la sienne, le CEO, ça va être lui. C'est attention, hein, et ça, je sais que Blondie l'avait dit là, dans le podcast avec toi, parce que du coup, il a également son startup studio. Voilà, nous, le danger, c'est qu'on ne veut jamais être des CEO. Il faut que le CEO soit un CEO. Nous, on est des cofondateurs et en fait, on va l'aider à aller, on va être son unfair advantage qui va lui permettre en fait d'aller plus vite et de faire en 6 mois ce qu'il aurait mis 2 ans à faire tout seul. C'est un peu ça le deal. Et voilà, à part la... Bien sûr, on va avoir des gens brillants, des gens qui ont déjà de l'expérience, qui sont experts dans tel ou tel domaine, mais surtout qui ont une capacité à exécuter, quoi. Vraiment exécuter. Et tu vois, j'avais discuté avec Thibaut Elzière, donc du coup, qui est un peu notre saint patron, qui est le CEO et cofondateur de eFounders, donc aujourd'hui Exa. Donc du coup, qui est, on va dire, c'est un peu le pape des startups studios. Hein. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. Ils ont monté, je ne sais plus, entre 30 et 40 boîtes. Je crois qu'ils sont déjà à 4 ou 5 licornes. Donc, je te laisse imaginer le niveau des mecs. Et tu vois, lui, il me disait, voilà, les gars que j'ai en face, j'essaie toujours de les imaginer devant Sequoia Capital. Est-ce que le mec, il va pouvoir les emmener avec eux en grosso modo en étalant sa vision et en essayant de les emmener avec lui, quoi. Donc c'est un peu ce que j'essaye un peu de refaire ça de mon côté et de m'imaginer s'ils y arriveraient, et c'est comme ça qu'on va les choisir, quoi.
Ok, je vois. Ouais, tu mets en évidence un point finalement, que ce que vous recherchez, c'est l'expérience, la personnalité, La capacité de passer à l'action massivement, d'exécuter ce que vous allez lui délivrer, parce que vous fonctionnez vraiment comme une sorte de coach, consultant, associé, advisor, co-founder, mais même si tu mets en exergue le fait que vous êtes beaucoup dans l'opérationnel quand même, c'est pas vous qui êtes les CEO, et ça c'est important de le mentionner. Est-ce que au-delà de la partie prise au capital, donc entre 25 et 35% pour reprendre l'exemple que tu as mentionné, vous appliquez des fees par rapport au temps, l'énergie que vous mettez en place sur le business de l'individu ou pas? Non, ok.
Non, pas du tout. Et même au contraire, on va même payer. C'est nous qui avons payé la création de la boîte. On va même payer le CEO au début s'il a pas de revenus, etc. Non, c'est un vrai business model sur long terme avec des longs cycles. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas le faire à moitié, il faut l'assumer. Et du coup, bah, c'est encore une fois, à titre personnel, c'est pour ça que j'ai organisé ma vie pour être hyper efficace sur l'amplitude de temps qui est la mienne, pour pouvoir faire mes business le plus rapidement possible, qui me rapporte l'argent nécessaire pour financer mon lifestyle, mes investissements et tout ce que je veux pour être libre. Et du coup, avoir aussi le temps nécessaire pour exécuter la vision que j'ai pour la chapelle, quoi.
Ouais, mais du coup, tu vois, c'est un business de passionné, d'une part, mais c'est aussi un business de profiler, finalement, parce que il faut être extrêmement bon dans ta capacité à identifier le futur CEO que tu vas accompagner, que vous allez accompagner avec la chapelle, parce que ça peut être rapidement une décision qui peut vous coûter très cher en temps, en énergie et en argent. Du coup, est-ce que avec le temps, l'expérience, les années, même si ça fait qu'un an que vous êtes sur la chapelle, mais avant ça, t'as quand même, j'imagine, côtoyé énormément d'entrepreneurs, t'as vu énormément d'entrepreneurs se lancer, toi-même, t'as lancé beaucoup de projets, tu parlais aussi avant de succès, mais d'échecs, on va en parler des leçons entrepreneuriales que t'as pu acquérir au travers de ton parcours ces 13 dernières années, mais par rapport au choix justement des CEO que vous allez pouvoir accompagner, est-ce que t'as identifié des patterns qui font que au-delà du fait de, ouais, c'est quoi qui fait que les entrepreneurs A versus les entrepreneurs B vont réussir, est-ce que tu as identifié des patterns qui font que cette personne, plutôt qu'une autre, va être la personne vers laquelle vous allez vous orienter pour pouvoir travailler avec?
Ouais, bah ça, c'est, du coup, c'est une très bonne question. Et évidemment, en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul pour dire si je me suis déjà trompé ou pas sur, sur certains d'entre eux. Je pense que c'est sûr et certain qu'il y aura des erreurs de casting ou des, on va même pas dire erreurs de casting, des erreurs d'association, parce que des fois ça pourrait aussi être de notre faute. On aura peut-être des fois vendu quelque chose qui ne sera pas du coup ce que le CEO du coup l'associé pourra en fait avoir espéré. Donc on va toucher du bois, aujourd'hui c'est pas encore le cas, mais en fait pour répondre à la deuxième partie de ta question qui est sur plutôt la partie pattern, donc j'ai déjà, enfin, moi, j'aime bien les gens dans tous les cas qui sont déjà, alors c'est un peu bateau comme réponse, mais qui sont des entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire que je les mets tout de suite dans la case entrepreneur. Pour moi, quelqu'un qui est dans la case entrepreneur, déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas le même rapport au risque que les autres. Tu vois, au tout début du podcast, on a parlé de la peur. Moi, j'ai l'impression que je fais les choses naturellement et certains peuvent même dire, putain, donc tu as du courage, etc. Alors que moi, je n'ai pas l'impression d'en avoir. Tu vois, quand moi, j'ai monté ma première boîte, j'ai pris vraiment le premier vrai risque où j'ai mis tout ce que j'avais, toute la thune que j'avais pour monter une énorme usine, etc. C'était en 2015. Je venais juste d'acheter ma baraque et ma femme était enceinte. Pour beaucoup de gens, c'était le pire moment pour le faire. Mais moi, en fait, à partir du moment où le timing était bon, tous les risques, je les voyais pas. Et ça, pour moi, c'est déjà ce qui caractérise un entrepreneur. La deuxième chose, c'est que tu sens que c'est quelqu'un qui a besoin d'être libre et qui va mettre la liberté beaucoup plus haut que sa volonté de confort. Ça, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, le deuxième aspect. Et encore une fois, plutôt la partie entrepreneur, dans la partie vraiment entreprendre, plutôt dans sa définition vraiment de l'action. C'est-à-dire que, tu vois, j'aime bien les gens, tu vois, par exemple, c'est con, hein, mais qui ont monté, tu vois, des dropshipping au lycée. Tu vois, moi, ça m'éclate. Un mec, moi, tu vois, par exemple, personnellement, alors que je me considère vraiment comme un entrepreneur, je ne sais pas si j'aurais fait ça au lycée. Tu vois, je faisais des petits business au lycée, j'organisais des soirées, j'avais monté une marque de t-shirt, etc. Et tu vois, ça montre en fait, encore une fois, que des lycées, des jeunes, tu cherches un moyen de te sortir de ta condition ou de gagner de l'argent. Et ça montre un état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive bien à détecter maintenant chez les gens. Si les gens, ils sont là juste pour la hype de l'entrepreneuriat qui devient de plus en plus mainstream, et c'est très bien, je suis très content de ça, tu vois, qu'il y ait les émissions de télé, que les entrepreneurs soient un peu plus tarifiés, etc. Et que de plus en plus de gens veuillent entreprendre, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Mais tout le monde, pour moi, n'en a pas les capacités. Tu vois, c'est pas une question de capacité, mais pour moi, tout le monde n'est pas fait pour ça. Parce qu'entrepreneur, c'est quand même inconfortable de temps en temps. Parce qu'on voit quand ça marche, c'est super. Mais en vrai, entrepreneur, c'est des soucis H24, c'est des pensées H24. Ça ne s'arrête jamais. Et ça, tout le monde n'est pas prêt pour ça. Et tu vois, par exemple, moi, les gens qui m'écrivent et qui commencent leur mail par « j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur », où ça fait 15 ans que je suis salarié, mais maintenant je me dis que c'est le bon moment d'aller dans le grand bain, etc. Très bien, je ne vais jamais aller contre ça, mais par contre, moi, ce n'est pas ce type de candidat que je cherche. Donc, c'est pour ça que je vais chercher quand même des gens qui sont plutôt jeunes et qui ont ça dans le sang, en fait. Tu vois, qui sont faits pour entreprendre, qui sont faits pour crever la dalle, pour avoir les dents qui rayent le parquet, mais encore une fois, dans le bon sens du terme. Et c'est plutôt c'est ce genre de profil qu'on va rechercher, quoi.
Ouais, je vois exactement. Et c'est super intéressant de mettre ça en exergue. Un autre point, tu fais partie de ceux qui, comme moi, prônent, je pense, le passage à l'action, prônent également le fait de se donner les moyens qui rayent le parquet, entre guillemets, dans le sens positif du terme, encore une fois. Tu vois, moi, je suis pas un grand... j'ai pas de grand diplôme, je suis pas le mec qui lit 47 000 bouquins, je suis pas de formation, je suis pas de trucs comme ça. Par contre, je passe massivement à l'action, j'apprends sur le terrain, j'apprends avec les clients, j'apprends avec les BAF. Est-ce que tu peux nous parler de tes plus grandes erreurs entrepreneuriales ou plus grandes déceptions, ou en tout cas les plus grands échecs, plutôt, c'est le terme, qui sont les plus avec les plus grands enseignements aussi souvent, pour situer un petit peu aussi les gens et pour leur dire, voilà les gars, aujourd'hui j'ai ça qui est en place, ça tourne, c'est carré, c'est net, je peux bosser 10 heures par semaine seulement et faire un M par an pour pouvoir financer mon lifestyle, financer mes projets, financer mes investissements, mener la vie que je kiffe mener avec mes potes et passer mon temps à développer des projets qui me font kiffer, mais avant j'ai payé le prix, et le prix c'est ça, et les leçons c'est ça.
Ah ben ouais, ben moi très, très clairement, et c'est très bien, mais moi le prix, je l'ai payé de manière assez vénère. La boîte que j'avais montée vraiment pour le coup quasi tout seul, le plus haut, alors même si j'avais un associé dessus, mais d'ailleurs avec qui ça s'était mal passé, hein, tu vois, on parlait tout à l'heure d'erreurs de casting. Je vais parler du coup de cette boîte qui s'appelait, alors je vais parler au passé puisque, spoiler alert, elle a été liquidée, ça s'appelait La Piscine. Alors, encore une fois, j'ai un peu des fois des délires bizarres sur les noms que je prends pour mes boîtes, mais ça n'avait rien à voir avec les piscines. La Piscine SAS, c'était une usine d'impression numérique, surtout support textile, encore une fois, du coup, qu'on avait monté et encore une fois, qui était 100% revendeur, 100% B2B, qu'on avait monté avec mon associé. J'avais mis, c'est le moment là, c'est la fameuse boîte où j'avais à l'époque 26 ans, j'avais coffré 30 000 balles de côté et j'ai mis all-in sur cette boîte pour acheter les premières machines, prendre le premier local et tout de suite prendre des premiers salariés. Et c'est une boîte qui, pareil, a été très forte tout de suite en matière de développement, puisqu'on fait plus d'un million dès la première année, plus de 2 millions la deuxième, plus de 3 millions la troisième année et quasi 4 millions la quatrième année. Les trois premières années à l'équilibre, c'est-à-dire qu'encore une fois, on fait de la croissance et c'est ce qui m'importe le plus. J'étais un vrai mec du chiffre d'affaires, de la croissance, niquer la concurrence. Tu vois, j'étais un entrepreneur pas très sain, on va dire, à ce moment-là. Donc, on parle de la période 2015-2019. J'étais assez violent, assez agressif là-dessus. Et je voulais écraser les autres. Je voulais être le meilleur, etc. Bon, encore une fois, voilà, je n'ai pas non plus me flageller, mais j'avais quand même beaucoup de défauts d'entrepreneur à ce moment-là. Même si j'avais une qualité, c'est que je savais développer une boîte très vite, aller chercher beaucoup de clients et faire du développement massif à ce moment-là. Problème, quatrième année, le bilan sort, pas rentable, mais alors pas rentable du tout. Plus de 300 000 balles de perte. Et à ce moment-là, ça a été les dominos, tu vois, qui s'écroulent les uns après les autres. Le château de cartes, pardon, qui s'écroule. Je perds tous mes encours, toutes mes assurances avec tous mes fournisseurs, prestataires, etc. Je devais de l'argent à ce moment-là à ces gens, puisque dans tous les cas, j'étais pas rentable. Je n'ai pas réussi à combler le trou avec soit de l'argent perso, même si du coup, j'ai remis tout ce que j'avais. J'avais été faire les fonds de tiroir avec ma belle famille, etc., qui m'ont prêté de l'argent. J'ai mis 3 ans à rembourser, etc. Donc pareil, pas forcément très agréable comme relation, surtout pour financer une défaite. Tu vois, c'est quand même pas ouf. Donc, on se met très vite en cessation de paiement. Je ferme l'usine. Licenciement économique. Donc là, en une seule journée, moi-même tout seul avec mes petits courriers d'avocats, etc., j'annonce à 30 personnes qu'elles sont virées et au chômage. La boîte, après, très vite passe en mode liquidation judiciaire. Tu vas au tribunal, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de papiers, beaucoup de choses hyper désagréables. J'avais pris en plus entre-temps, encore une fois, pour financer la défaite, des espèces de, tu vois, de prêts, tu sais, avec la banque en mode prêt court terme, etc. J'avais pris, je sais plus combien, 80 000 euros que je rembourse encore aujourd'hui, hein, alors que j'ai liquidé en 2019. Tous les mois, j'ai un petit virement de 500 balles qui part à la banque pour rembourser. Donc, tu vois, pareil, ça, les gens quand même doivent savoir hein, que, encore une fois, les gens peuvent paraître un peu successful d'extérieur, mais il y a eu des grosses merdes, etc. Et moi, en fait, ce que ça m'a appris, c'est que du coup, j'arrête aujourd'hui de parler en chiffre d'affaires, je ne parle qu'en marge. La gestion financière, la rentabilité, bah, ce n'est pas en option. Que encore une fois, le chiffre d'affaires, c'est très bien pour les milestones, etc. Mais ce n'est pas en tout cas ce qui permet de réinvestir et de bien gagner sa vie. Donc voilà, tous ces enseignements, je les ai pris violemment en pleine gueule. Et surtout, voilà, avec un mantra, c'est que ça a été tellement dur cette année 2019, ça a été tellement la honte pour moi, j'ai tellement été vexé, bah, qu'on m'y reprendra plus. Et du coup, ça, aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis après en exergue sur les boîtes que j'ai montées après la piscine et sur toutes les boîtes et tous les CEOs, du coup, que je mentore, grosso modo, aujourd'hui, quoi.
Oui, je vois. Bah, merci pour ce partage, cette transparence. D'ailleurs, c'est bien, tu mets en exergue le quatrième point sur lequel, en tout cas, tu mets en évidence que vous travaillez avec les différentes boîtes que vous accompagnez. C'est le côté admin et finance. Tu dis, voilà, le chiffre d'affaires, c'est bien, mais tu ne penses qu'en marge, tu ne penses qu'en bénéfice aujourd'hui. Connaître ces chiffres, c'est capital. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur quelques best practices à propos de ce côté financier, de ce côté chiffre, de ce côté marge, qui est souvent pas pris en compte en fait par la plupart des entrepreneurs qui démarrent. Ils se disent, ouais, c'est bon, de toute façon je fais de la presta, c'est bon, 80% de marge, c'est sûr. Ils confondent chiffre d'affaires et bénéf. Ils recrutent, ils comprennent pas qu'il faut anticiper pas mal de variables en amont, etc. Il y a, je pense, pas mal d'enseignements que tu peux nous partager pour celles et ceux qui nous écoutent ici à propos de ce sujet.
Bah écoute, carrément, aujourd'hui en fait, de toute façon, il y a principalement, en fait, moi j'ai trois tableaux, mais alors pareil, il n'y a pas besoin de, tu vois, alors, là je parle par exemple de ma société perso, qui va parler, je pense, à une plus grande part de ton audience, donc tu vois, jusqu'à 1 million d'euros et même après, tu n'as pas besoin de DAF. Tu peux faire tout toi-même si, since day one, ou alors dès maintenant, pour ceux qui n'ont pas commencé, tu suis avec grande rigueur et scrupuleusement. Moi, je pense, tu vois, j'ai trois tableaux. J'ai un tableau qui est mon budget, donc c'est le fameux business plan. Donc, j'ai un business plan prévisionnel et tous les mois, je le mets à jour avec le réel. Pour voilà, aujourd'hui, si un mois, t'es pas rentable, tu vois, par exemple, moi, mon mois de février n'a pas été rentable. Et à un moment donné, tu peux en avoir l'intuition, mais c'est très bien qu'un tableau te dise, écoute, Coco, tu as l'impression que ça marche, mais là, tu vois, ce mois-ci, tu as perdu 18 000 boules. Tu vois, voilà, il faut que tu le saches. Donc, c'est très bien, tu avais fait un bon mois de janvier, ça rattrape un peu le coup. Mais là, dès le mois de mars, il va falloir te rebouger le cul. Tu vois, ça me permet en fait, tu vois, d'avoir une espèce de jeu de ping-pong avec moi-même, de discussion avec moi-même, pour me dire, voilà, ne pas me cacher derrière, tu vois, cette fameuse politique du doigt mouillé, en mode, bon, pour moi, ça va. Tu vois, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure. Donc voilà, déjà, le suivi du budget, ça me paraît être essentiel. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le micro, il y a vraiment le suivi déjà de la trésorerie, qui est hyper important. Donc encore une fois, moi, pareil, ce tableau-là, il est avec Excel, donc enfin sur un Google Sheet. Et tu vois, tous les jours, alors aujourd'hui, c'est ma femme et associée qui s'occupe de cette partie. Mais tu vois, tous les jours, on rentre ce qui sort et on indique ce qui rentre. Et en fait, à chaque semaine, tu as du coup ta balance de trésorerie à la semaine et tu as ta balance de trésorerie réelle. Et là-dedans, dans ce tableau, tu vas noter tout ce qui doit rentrer dans la semaine d'après, celle d'après, et celle d'après, et celle d'après. Quand tu as des business récurrents, bah voilà, dès que tu signes un nouveau client, tu peux rentrer cette récurrence-là dans tes recettes, bah dans l'argent qui va rentrer. Et pareil, quand tu prends des nouveaux coûts, des nouveaux abonnements, que ce soit des abonnements avec des tools ou avec des freelances, etc., il faut pas se planquer. En fait, il faut assumer que voilà, il faut piloter sa boîte avec des vrais chiffres et des vrais prévisionnels. Et tu vois, moi, j'aime bien, je regarde ce tableau-là 2 à 3 fois par semaine. Et tant que je vois que j'ai 3 4 mois dans le vert, je suis content. Mais tu vois, par exemple, si je suis hyper honnête, là, tu vois, j'ai fait mon point finance encore une fois avec moi-même hier. Et là, moi, tu vois, j'ai remarqué que là, on est le 21 mars. Et à partir de début mai, je suis dans le rouge sur la partie trésorerie. Donc, Je m'en serais sûrement du coup rendu compte début mai que j'allais être dans le rouge, mais là maintenant je m'en rends compte maintenant, donc plus d'un mois avant que ça arrive. Donc ça me permet de maintenant de mettre les bonnes actions en place, c'est-à-dire d'aller mieux maîtriser mes coûts et surtout de faire rentrer plus de business, parce que c'est peut-être à un moment donné où je me suis dit, vas-y, je vais pas forcément faire rentrer, j'en ai assez, etc. J'ai pas envie de passer plus de temps. Bah là, le tableau me dit, bah non, mon coco, là, il va falloir que tu ailles faire rentrer du business parce que tu es dans le rouge dans un mois et demi. Et tu vois, c'est ce pilotage hebdomadaire, mais j'ai presque envie de dire quotidien, qui permet de faire qu'aujourd'hui, bah, encore une fois, je dors très bien la nuit et ça me permet de piloter mes revenus, de piloter mes actions et de piloter mon agenda, quoi.
Ouais, c'est extrêmement intéressant. Et tu utilises un outil pour ça, genre Agicap, Rocket Charts ou des choses comme ça?
Eh bien, pas du tout. Je te dis, j'ai créé mes propres outils avec Excel. Ah, d'ailleurs, okay. Tu vois, je peux le dire là aux gens qui nous écoutent. Si vous voulez, je peux le mettre à dispo. J'ai un template qui est prêt. Bah, il suffit juste de venir me le demander, donc soit par LinkedIn, soit par mail. On va dire peut-être plutôt par LinkedIn parce que sinon, je vais avoir ma boîte mail qui va être envahie. Et il n'y a pas de problème. Je vous l'enverrai avec grand plaisir.
Ouais, ou si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on mettra un lien Sheets disponible en un clic en dessous de ce podcast. Comme ça, les gens cliquent dessus, font cliquer, créer une copie en haut à gauche et ils l'ont directement dans leur Google Drive et c'est plus simple pour celles et ceux qui le
désirent. Eh bien, écoute, on pourra faire ça avec grand plaisir.
Parfait, parfait. Merci pour ça, merci pour eux. Je pense que tu vas en aider plus d'un parce que le nombre de gens que je vois qui ne connaissent pas leurs chiffres financiers, qui est d'ailleurs le chiffre le plus important parce que voilà. Pour moi, même si l'argent est tabou en France, malheureusement, c'est finalement, l'argent est pour ton business ce que l'oxygène est pour ton corps. Si tu n'as plus d'argent, ton business meurt. Si tu n'as plus d'oxygène, ton corps meurt aussi. Donc, ouais, c'est important. On a évoqué beaucoup de sujets, super passionnants, super intéressants. Je pense qu'on pourrait parler des heures. J'ai envie de revenir sur un point aussi. Tu fais partie de ces gens qui sont quand même très, très, très actifs et présents sur LinkedIn. Moi, je n'utilisais pas trop LinkedIn pendant longtemps. Je pensais qu'on ne pouvait pas faire d'argent dessus. Bon, je me suis vraiment mis le doigt dans l'œil, je me suis trompé. Je vois que LinkedIn est très intéressant, très profitable et bourré de gens passionnants comme toi, comme d'autres. Tu parlais de Joe tout à l'heure. Je n'aurais jamais fait sa connaissance ni découvert Split sans LinkedIn, par exemple. Tu cartonnes sur LinkedIn. Il y a 4 jours encore, tu sors un post dans lequel tu nous dis « J'ai fait plus de 3 millions de vues ces 3 derniers mois sur LinkedIn grâce à 2 choses ». Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 choses d'une part, mais aussi nous donner quelques best practices pour ceux qui veulent aller sur LinkedIn mais ne savent pas vraiment comment se démarquer, comment faire, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'acteurs et à chaque fois quand on rentre sur un nouveau réseau social, quel qu'il soit, quand on voit qu'il y a 100, 200, 300 personnes qui parlent plus ou moins des mêmes sujets dans la thématique, c'est plus dur de pénétrer ce marché. Est-ce que tu as 2-3 conseils à partager à celles et ceux qui nous écoutent?
C'est vrai que moi, LinkedIn, je me suis vraiment mis dessus il y a maintenant 15 mois, grosso modo, parce que c'était en fin d'année 2021. Au début, j'étais plus en mode expérience sociale. Tu vois, je me suis dit, vas-y, je voyais les gens qui commençaient à cartonner dessus. J'étais assez impressionné de me dire, putain, ils écrivent des posts et ils arrivent en un post à atteindre, par exemple, 1 million de personnes. Quand on sait ce que ça coûte d'aller atteindre 1 million de personnes et que là, tu peux le faire avec un post, je me suis dit, mais c'est incroyable. Il faut que j'essaye moi-même pour voir si ce qu'ils disent, c'est vrai. Et je le confirme, c'est vrai. Mais du coup, encore une fois, ça a pris beaucoup de temps. Et la première chose, c'est la patience, la résilience et vraiment la récurrence. Alors que moi, aujourd'hui, je poste tous les jours sur LinkedIn. Et je pense que si je ne postais pas tous les jours sur LinkedIn, évidemment, de toute façon, il n'y aurait pas 3 millions de vues. Parce que tous les jours, je fais des vues et tous les jours, j'habitue les gens et tous les jours, je gagne des nouveaux abonnés grâce à ça. Donc ça, c'est la première chose. Après, bien entendu, il faut que le contenu soit qualitatif. Donc voilà, l'idée, ce n'est pas de faire un cours sur les accroches, le copywriting ou autre. Mais par contre, si on peut plutôt parler, on va dire, du contenu et des thématiques, il va falloir vraiment parler de vos thématiques qui vont vous permettre de dénoter dans le paysage. Donc en fait, moi, très vite, j'ai tablé sur mes expériences et je me suis tout de suite mis dans le give. C'est-à-dire, moi, en fait, j'avais un côté positif par rapport aux autres créateurs de contenu. C'est que moi, pendant presque 1 an, j'ai posté sur LinkedIn sans avoir rien du tout à vendre. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait un post qui amène vers une page de vente, etc. avant très, très récemment. Donc, je pense que déjà, ça me permettait de faire des posts qui étaient uniquement authentiques, puisqu'ils étaient juste là, en fait, pour donner du contenu aux gens. Bien sûr, ils étaient là aussi pour flatter mon ego, gagner en visibilité, gagner en crédibilité. Bien sûr, j'avais tous ces objectifs-là en tête. Mais du coup, j'avais rien à vendre. J'étais toujours dans le don. J'expliquais mes méthodes. J'ai écrit, tu vois, des playbooks que j'ai mis en mode gratuit à disposition de tous. J'ai fait quand même plus de 15 000 téléchargements. Alors que ces playbooks, j'aurais pu les mettre à 50 balles. Ils se seraient très bien vendus et j'aurais fait un beau petit billet, etc. Mais tu vois, j'ai plutôt une stratégie long terme en tête. Et je me suis dit, voilà, plus tu vas être récurrent, plus tu vas être résilient, plus tu vas donner sans rien attendre en retour. C'est assez vulgaire, mais j'ai l'habitude de dire que le karma, c'est pas une pute. Et que quand tu donnes, à un moment donné, le retour du bâton, il va forcément être positif. Et c'est ce qui a été le cas pour moi. C'est-à-dire que toutes les opportunités, du coup, me sont arrivées gratuitement. On parlait tout à l'heure de la chapelle. Joe, Ben, Vic et Sam, je les ai rencontrés grâce à LinkedIn. La moitié des gens qui sont dans le Poney Club, ils me connaissent grâce à LinkedIn. Aujourd'hui, je mentore une quinzaine de personnes, c'est grâce à LinkedIn. Aujourd'hui, je suis dans ton podcast, c'est grâce à LinkedIn. Donc, tu vois, ça m'apporte énormément de choses positives. Et moi, je crois beaucoup dans la théorie du chaos, tu sais, où une opportunité en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre. Et bah, du coup, ça, j'y crois beaucoup. Et donc, tu vois, j'ai posté sur LinkedIn, j'ai rencontré Joe. Joe, par exemple, t'as parlé de moi. Du coup, on s'est rencontrés. Du coup, aujourd'hui, je suis dans ton podcast. Aujourd'hui, grâce à ton podcast, il y a des nouvelles personnes qui vont me connaître, donc des nouvelles personnes qui vont rentrer en contact avec moi, qui vont commencer à me suivre et qui peut-être demain seront des futurs associés pour des boîtes qu'on va monter avec la chapelle et peut-être que c'est des boîtes qui vont devenir voilà, des boîtes extraordinaires, etc. Et tout ça, encore une fois, tu vois, de base, c'est grâce à une première action qui va en amener une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Donc voilà, pour résumer un peu, je suis un peu divagué par rapport à ta question première, mais voilà, LinkedIn, c'est qualité, quantité, c'est vraiment ce qui va être les deux maîtres mots pour hyper fait, quoi.
Ouais. Et l'avantage de LinkedIn, tu le mets en exergue, c'est le réseau, justement, c'est la connexion, c'est le fait de rencontrer, connaître de nouvelles personnes qui ont des aspirations similaires aux tiennes, qui ont des envies similaires aux tiennes et du coup qui vont faire du business. Pour venir justement à ça, ce point qui est quand même un point important et la raison pour laquelle la plupart des gens finalement viennent sur LinkedIn, c'est le networking. Et on va rebondir, on en a parlé au tout début d'épisode, le Poney Club, qui est un des autres projets justement que tu propulses. Finalement, c'est un club, comme on l'a dit, que vous êtes à peu près 200, un peu plus de 200 entrepreneurs, sauf erreur, à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi tu l'as créé et est-ce que derrière, c'est un projet qui a pour objectif d'être monétisé? Comment on monétise ce type de club, le cas échéant, ça peut être intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent.
Ouais, complètement. Donc encore une fois, le Poney Club est encore une fois né d'une action. Tu vois, il faut toujours mettre une première brique. Donc encore une fois, tu prends les débuts du Poney Club. On est dans un resto qui était bien, on était une dizaine. Il y avait rien de structuré, mais c'est comme ça que les belles histoires commence, tu vois. J'aurais pu dire encore une fois, c'est tout, là, je vais rester chez moi ou quoi. Mais non, je me suis un peu bougé le cul, j'ai demandé à un premier entrepreneur, ouais, je voudrais monter un club, est-ce que ça te dit? T'imagines, au début, il y a une personne qui te dit oui. Donc au début, vous êtes un club de deux, donc c'est un peu ridicule. Mais en fait, il faut bien qu'il y ait une première personne si tu veux un jour avoir 50, 100, 200, 500 personnes dans ton club. Et j'ai demandé à une deuxième personne, une troisième personne, une quatrième personne. Et en fait, c'est ça qui a tout de suite fonctionné parce que comme la première soirée était dantesque, était trop bien, tu vois, on a fini justement avec notamment Joe, Ben, Vic, etc. On a fini dans leur bureau jusqu'à 6h du mat à refaire le monde, etc. Et j'aime à me dire qu'en fait, la genèse de la chapelle, elle est née dans cette soirée. Et ce qui est vrai, parce que c'est la première fois qu'on était réunis tous les cinq. Donc, c'est ça qui est beau. Tu vois, on parlait encore une fois de la théorie du chaos. Si je ne m'étais pas bougé le cul à... Parce qu'au début, je ne voulais même pas monter un club. J'ai appelé ça le Poney Club parce que c'est rigolo. Et parce qu'en plus on m'avait déjà soufflé le nom, c'était mon associé de l'époque sur Capsule, Seb, qui faisait des dîners comme ça un peu à thème avec d'autres entrepreneurs à Lille, et ils avaient appelé ça pour déconner le Poney Club. Et moi je lui ai toujours dit, faudrait le faire à Bordeaux, faudrait que je le fasse à Bordeaux. Et à un moment donné je l'ai fait, tu vois, c'était dans ma to-do list depuis 3 ans, et à un moment donné je suis passé à l'action et du coup je l'ai fait, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui le Poney Club est ce qu'il est. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la première partie de ta question. Et il y avait une deuxième partie, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, est-ce que l'objectif derrière, c'est le monétiser d'une certaine façon? Si oui, comment est-ce qu'on monétise ce type de club?
Alors, on va le monétiser, oui, mais pour l'instant, dans la vision, le but, c'est pas de faire des profits avec. C'est parce que justement, on veut organiser des choses de plus en plus cool pour les membres. Tu vois, aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, qui est aujourd'hui, tu vois, on organise grosso modo un dîner tous les mois. On commence aussi à organiser j'en parlais au début, des ligues de paddle, des sessions de golf. Demain, je voudrais organiser aussi des off-sites. Demain, on va vouloir organiser plus de types d'événements, pareil, des fois des trucs un peu en mode atelier avec des invités de prestige, des entrevues plus à thème en groupe un peu plus réduit. Et tout ça, quand même, ça prend du temps, ça demande de l'argent. Et aujourd'hui, on le fait un peu à perte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en suis un peu de ma poche là-dessus parce que même si les gens payent leur soirée, souvent il y a un peu des extras que je paye moi-même, etc. Quand je dis des extras, attention. Pas des filles de joie ou de la drogue ou autre, hein, c'est plus amener plus d'apéro, plus de bouffe, plus d'entertainment dans tout ça. Donc tout ça, toujours on en a un peu de notre poche. Et le but, c'est de au moins le faire sans perdre d'argent et en mode plus confort et avec une personne dédiée qui va s'occuper de gérer tout ça parce que ça me prend de plus en plus de temps. Donc pour le monétiser, c'est simple, hein. Soit tu marges sur les événements que tu organises. Soit tu mets en place une cotisation pour devenir membre qui est mensuelle ou annuelle. C'est les deux options que tu peux avoir, quoi.
Ok. Ouais, non, c'est super intéressant et je te pose la question parce que même moi, j'envisage potentiellement de mettre en place un club d'entrepreneurs ici à Dubaï. Il n'y en a
Top.
pas ou très peu et du coup, c'est toujours
Ah,
intéressant
c'est
d'avoir
fou
ton
ça.
feedback là-dessus. Ouais, c'est incroyable. Alors que pas plus tard qu'hier soir, je discutais avec un ancien client qui est devenu un ami qui a déménagé ici à Dubaï qui cartonne. Et qui me dit, je lui dis, pourquoi tu as déménagé à Dubaï? Parce qu'il était très bien où il était. Il me dit, ouais, bah parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, il y a sûrement des soirées networking 3 fois par semaine. Et je lui dis, mais non, il y en a 2 fois par an. Et du coup,
Ah bah,
et en fait, c'est que des
il y a une opportunité
microcosmes
de
d'un
dingue du
MBO.
coup.
Ouais, il y a vraiment une opportunité de dingue. Donc, et en plus, avec entrepreneurs.com, le réseau que j'ai déjà ici sur place, je pense qu'on va faire quelque chose d'assez intéressant. Donc, ceux qui écoutent ce podcast, peut-être qu'au moment où vous l'écoutez, regardez un petit peu sur LinkedIn et autres si vous êtes sur Dubaï. Il y a moyen qu'on ait communiqué quelque chose en ce sens.
Ah.
Mais ouais, c'est dans les tuyaux, c'est dans les tuyaux. Je voulais revenir sur une chose. J'ai 2 dernières questions. La première, c'est… Je t'ai vu passer dans les stories justement différentes personnes lorsque tu étais présent pour l'event de David. On en a parlé avant tout à l'heure rapidement en intro, David Laroche pour son event The Game. Là, en me baladant tout à l'heure aussi sur ton LinkedIn en préparant cet épisode, j'ai remarqué un truc. Heureusement que je l'ai vu parce que je ne l'aurais pas soupçonné. C'est que bah, même si tu es extrêmement à l'aise dans cet épisode et que tu es extrêmement à l'aise à coacher en one-to-one des individus, tu le fais depuis maintenant un certain temps et c'est ton quotidien aussi aujourd'hui avec La Chapelle, bah, visiblement, je cite tes propos, tu perds tes moyens lorsqu'il y a plus de 20 personnes face à toi et que tu dois monter sur scène. Et t'expliques justement ton passage sur scène dans un post LinkedIn, puis qu'au final, ça s'est extrêmement bien passé. Tu as surkiffé l'expérience. Bravo pour ça. Bravo d'avoir justement dépassé cette peur et puis d'avoir pu passer un bon moment. Il y a beaucoup de gens qui ont conscience du potentiel de savoir s'exprimer, de savoir transmettre un message et d'oser justement outrepasser ses peurs, quel que soit le domaine. Qu'est-ce qui explique cela dans ton cas? Et est-ce que tu aurais des conseils ou un truc qui t'a donné un déclic à un certain moment, te permettant justement… D'outrepasser cette barrière parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, demain, je te dis, ok, bah, cette fois, Hugo, là, j'organise un séminaire, viens, il y a 450 personnes, tu vas beaucoup moins redouter ce passage parce que tu te dis, bah, je l'ai fait il y a 3 semaines devant 300 personnes, il n'y a aucun problème, vas-y, je le fais, let's go, je suis chaud parce que tu as validé ce cap. Est-ce que tu peux partager, si tu as quelque chose à partager spécifiquement à ceux qui nous écoutent à propos de ce sujet?
Ouais, j'avoue que moi, la parole en public, et c'est vrai que en fait, c'est fou parce que je suis quelqu'un qui est hyper à l'aise socialement. Moi, tu me mets dans un bar pendant 3 heures, je ressors avec 4 potes. Tu vois, j'ai pas de peur en fait à avoir de l'interaction sociale. Mais dès lors que je suis le seul à parler et que je dois performer, grosso modo, tu vois. C'est une peur qui remonte en fait même au lycée. Tu vois, la première fois en fait que tu dois un peu pitcher à l'oral devant des gens qui vont t'écouter et qui vont écouter ta performance, c'est le bac de français. Et moi, je me rappelle que mais j'étais terrifié et ça ne m'a jamais quitté. Après, même quand je suis rentré en école, il fallait faire des entretiens de personnalité, etc. Et en plus, ça ne voulait pas dire que je n'étais pas bon, hein, parce qu'une fois que la personne m'avait mis en confiance et que j'étais parti, j'avais assez confiance en moi pour savoir que après le contenu allait être bon. Mais c'est le fait de prendre la parole à l'oral, de devoir encore une fois déblatérer débiter une performance, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu peur de le faire. Et en effet, quand ça fait partie de mes objectifs de 2023, de savoir le faire, tu vois, j'ai passé le cap en 2022 à le faire à l'écrit sur LinkedIn. Parce qu'au début, pareil, je comprends que des gens aient peur de poster sur LinkedIn, mine de rien, un peu tu te fous à poil devant tout le monde, sauf que bon, bah, c'est facile, c'est à l'écrit, c'est derrière ton ordi. Tu postes et après tu peux fermer l'ordi, puis après venir voir ce que les gens ils ont dit. Et en général, quand même, les gens ils sont sympas, même s'il y a toujours 2-3 connards qui traînent sur Internet. Mais à l'oral, devant un public, alors là en plus devant 300 personnes, etc., j'avais hâte de le faire, j'étais excité de le faire, mais j'avais extrêmement peur. J'ai exactement la même peur avec le vertige. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand je pars en vacances, des criques, des falaises, où tu es à. Je ne voudrais pas faire le mytho, hein, j'en sais rien, mais quand tu es à 3, 4, 5, 6 mètres, etc., tu vois, tous mes potes, ils y vont, mais naturellement, etc. Moi, je vais pisser 3 fois avant et je suis le mec qui saute en dernier, qui met un quart d'heure à sauter. Mais une fois que j'ai sauté, je vais le refaire une deuxième fois. J'attends un peu moins longtemps et après, je le fais en mode en boucle. Une fois que je me suis mis en confiance et que j'ai compris que ça allait bien se passer, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas à avoir peur, ça le fait. Mais du coup, j'avais un peu cette même trouille là-dessus. Et là, je pense en fait, sur le fait que ça s'est bien passé, il y a deux choses. C'est que tout de suite, David, il a senti, je pense, que j'étais stressé. Et donc, du coup, il ne m'a pas juste en mode présenté et jeté dans l'arène. C'est-à-dire qu'on a fait un peu un jeu de ping-pong pendant 10 minutes où on a discuté tous les deux. Donc, du coup, bah, déjà, ça m'a mis à l'aise parce que je répondais à des questions. Donc, je n'avais pas besoin, encore une fois, de performer. J'avais juste à répondre à une question. Parce qu'à preuve du contraire, je ne suis pas débile, sujet, verbe, COD, j'ai compris la question, je vais y répondre. Et ensuite, c'était à mon tour. Et là, pareil, j'ai tout de suite dit à l'audience que j'étais mort de trouille. Et je pense qu'en fait, tout de suite, j'ai senti dans les regards, de toute façon, c'était évident, mais qu'ils n'étaient pas là pour m'enfoncer ou foutre de ma gueule, le cas échéant, etc. Et tout de suite, ils m'ont mis en confiance. J'ai senti, tu vois, 2-3 fois, voilà, des gens sourire, des gens même rire, des gens acquiescer de la tête quand je les regardais, etc. Et en fait, plus ça allait et plus j'étais hyper à l'aise avec l'exercice. Et tu vois, j'ai parlé pendant plus d'une heure et demie. Et du coup, bah, j'ai envie de te dire, premier objectif, done. Et tu vois, c'est marrant, encore une fois. J'ai fait un post LinkedIn pour en parler. Et le jour d'après, j'étais invité à faire un TEDx du coup à Bordeaux, et pareil, ça faisait partie de mes objectifs. Mais tu vois, encore une fois, grâce au passage à l'action, grâce à LinkedIn, grâce à tout ça, et bah du coup, je vais pouvoir cocher une autre case de mes objectifs qui est de faire un TEDx. Alors pareil, là j'ai également peur, mais je suis également excité, et maintenant voilà, je vais bien me préparer. Et désolé, je divague trop, mais c'était encore une fois pour mettre encore une fois en exergue et en avant que le passage à l'action amène l'action et amène les opportunités, qui amène d'autres opportunités, qui amène de l'action, qui amène des opportunités. Et en fait, c'est sans fin. Et si on devait retenir peut-être une seule chose de mon profil, bah en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, faites, et même si c'est pas ouf, dans tous les cas, il n'amènera que du positif. Parce que tu vois, par exemple, encore une fois, par rapport à la conférence que j'ai fait chez David, ce que je peux dire, c'est que j'en ai fait une le mois d'avant également devant 300 personnes. Mais là, pour le coup, j'ai été nul. Et franchement, je me suis vraiment tapé la honte. Ça m'a vraiment énervé. Tu vois, je ne me suis pas senti bien. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'ai réussi en fait à savoir pourquoi je n'avais pas été bon. J'avais trop préparé, trop scripté. J'étais trop dans le scolaire, j'étais trop dans le par cœur. Donc, encore une fois, si je ne m'étais pas bouffé cette première fois un mois avant The Game, je pense que j'aurais été nul à The Game. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je vois. Ouais. C'est super intéressant. Et pour résumer, fait est mieux que parfait, je le dis souvent. Et tu as totalement raison. Et c'est le message que l'on peut retenir de cette anecdote. J'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque fois aux différentes personnes qui passent sur le déclic. Parmi tout ce que tu nous as partagé ici dans cet épisode, est-ce que tu peux nous partager, est-ce que nous peut-être un déclic, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une leçon, peu importe, mais un truc qui a limite créé une transformation identitaire chez toi, dont tu te souviendras toute ta vie et que tu as absolument envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent, mais que tu n'as pas encore partagé avec nous dans le cadre de cet épisode.
Ben, j'en ai quand même un peu parlé, mais véritablement, moi, le déclic, eh ben, je pense que ça a été le jour où j'ai fait mon premier post LinkedIn il y a 15 mois. Pourquoi ? Parce qu'après, du coup, j'ai pris goût et j'ai commencé à écrire toutes les semaines, même quasi tous les jours. Et en fait, d'écrire et de mettre sur papier tes pensées, ça m'a obligé du coup en fait à structurer ce que j'avais dans la tête. Je me suis rendu compte sans le savoir qu'en fait j'avais des méthodes, mais je ne le savais pas. Et en fait, ça a été vraiment assez thérapeutique pour moi. Et ça m'a permis en fait à comprendre ce que j'aimais. Et donc du coup, moi, ce que j'aimais, c'était de monter des boîtes. Et donc, pourquoi je me restais à chaque fois enfermé dans des nouvelles boîtes, à chaque fois quand même avec pas des déchirements, mais mine de rien, quand tu t'associes avec un mec et qu'au bout d'un an et demi, deux ans, tu lui dis que tu as envie d'aller monter autre chose. Bah, ce serait mentir de dire que c'est hyper simple. Mais tu vois, je pense que c'est grâce à LinkedIn que j'ai réussi en fait à faire ce cheminement intellectuel dans ma tête qui était qu'il fallait que je monte un startup studio, c'était ça qui était fait pour moi. Donc le déclic, c'était il y a 15 mois, la première fois que j'ai appuyé sur le mot « post ». Donc la première fois que j'ai pris la parole, grosso modo, en public, quoi. Mais même si c'était à l'écrit.
Magnifique. Merci pour cet épisode. Merci pour ce moment de partage. Franchement, Hugo, c'était un plaisir de t'avoir ici sur le podcast à mes côtés. On a fait un super épisode. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent ont eu autant de plaisir à nous écouter que moi, je n'ai eu à animer cet épisode. Si c'est le cas, bah, faites-le nous savoir en partageant l'épisode, mettant les 5 étoiles sur Apple Podcast et en mettant la note, l'avis sur Apple Podcast. On en a déjà beaucoup, mais il en faut encore plus. Ça aide énormément. D'ailleurs, Hugo, si tu ne l'as pas encore fait, la note 5 étoiles, la vie Apple Podcast, merci d'avance. Je te paye un paddle quand on se voit à Bordeaux, même si tu vas m'éclater. Ou quand tu viendras sur Dubaï, avec grand plaisir, on a de très beaux terrains de paddle. Mais non, plus sérieusement, en tout cas, merci pour ton temps, merci pour le partage. C'était vraiment un excellent épisode et on ressent en toi une vraie volonté de partager et aussi une vraie expertise, une vraie maîtrise. Et c'est la raison pour laquelle je pense que tu as parfaitement trouver ta vocation en créant La Chapelle et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les années à venir.
Bah écoute, merci beaucoup Alec. Moi aussi, j'ai passé un super moment dans ton podcast. Donc encore merci infiniment pour l'invitation. Et bah écoutez, j'espère que les gens apprécieront ce qu'ils entendront.
Parfait, merci.
Merci à toi.